Bonjour à tous, aujourd'hui encore, l'écho se met au vert.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Deuxième jour de notre série intitulée « Oh les beaux jours ». Cette semaine, nous explorons l'économie du tourisme, tandis que flotte dans l'air un furieux désir de vacances. Depuis le début du mois de juin, les frontières européennes rouvrent en ordre dispersé. Depuis que la menace de la pandémie s'estompe, l'heure est à la concurrence sur le vieux continent et chaque pays espère attirer le maximum de voyageurs sur ses plages. Alors les rives de la Méditerranée vont-elles se remplir de vacanciers masqués ? C'est la question qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons poser notre serviette sur une plage du sud de l'Europe en compagnie de Philippe Violier, professeur de géographie à l'université d'Angers, et de Laurent Tissot, historien, professeur émérite à l'université de Neuchâtel en Suisse. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et un grand merci d'être avec nous aujourd'hui depuis chez vous.
Alors comme tous les étés, vous faites votre courrier à Carcassonne.
Ah non, non, cette année pour les vacances, je fais toute l'Italie.
Ah bon ?
J'espère qu'il sera meilleur qu'ici, parce qu'elle était pourrie dedans. Hein.
Allez.
Merci madame Tenue.
Bon voyage, monsieur Antoine.
Au revoir, je vais revenir tout bronzé.
Je vous annonce qu'à partir du mois de juillet, l'entrée de touristes étrangers en Espagne reprendra en conditions de sécurité. Les touristes étrangers peuvent donc désormais planifier leurs vacances.
Los turistas extranjeros, por lo tanto, pueden desde ya también planificar sus vacaciones en nuestro país.
Greek tourism is back.
Le tourisme grec est de retour. Nous sommes sur le point de lever la plupart des restrictions de vol restantes. Nous nous ouvrons aux visiteurs, mais nous le faisons avec votre sécurité comme priorité absolue. Aujourd'hui, mon message est très simple. Venez en Grèce. Dites à vos amis, vos lecteurs, vos auditeurs et vos téléspectateurs que nous sommes ouverts et qu'ils sont les bienvenus.
On vient d'entendre dans l'ordre Bourvil dans le Cornouaille, mais aussi le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez et son homologue grec Kyriakos Mitsotakis. Après une longue période d'inactivité forcée pour le secteur touristique, les pays du sud de l'Europe espèrent encore sauver les meubles cet été, Philippe Biollier.
Oui, bien évidemment, c'est-à-dire que le tourisme occupe une place importante dans leur économie, hein, c'est 12%, 13% jusqu'à 20% du PIB pour la Grèce. Hein, par comparaison, la France, c'est 7%. Pour ces pays-là, c'est un enjeu important.
Un enjeu essentiel, évidemment, pour vous aussi, Laurent Tissot, même si ce que l'on peut regretter, c'est ce qu'a fait le chef de la diplomatie belge, Philippe Goffin, mais aussi le Premier ministre Édouard Philippe, regretter que les pays européens ne se coordonnent pas pour la réouverture de leurs frontières.
Absolument, c'est même un peu dramatique. On retourne dans une espèce de régression nationaliste. De voir ces pays s'entre-déchirer pour avoir une part du marché, mais comme l'a dit Philippe Voilier, l'activité touristique est absolument essentielle pour ces pays, donc ce n'est pas étonnant, mais il y a une part de régression.
Le fait que les pays européens ne parviennent pas à s'entendre sur la réouverture de leurs frontières, est-ce que il faut y voir le signe d'une concurrence accrue entre pays du Sud, à l'heure où justement le secteur touristique est particulièrement fragilisé par le confinement et la crise sanitaire, Philippe Biollier ?
Mais tout d'abord, il faut préciser qu'il n'y a pas de politique touristique européenne. Hein, dans l'Union européenne, il y a une politique agricole, il y a des accords industriels, par exemple, sur Airbus, etc. Mais il n'y a jamais eu de politique touristique. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait cette cacophonie. Là aussi, on peut regretter que l'Europe n'avance pas assez rapidement.
Et sur cet ordre dispersé, Laurent Tissot, est-ce que aujourd'hui, on peut effectivement regretter l'absence d'une politique européenne du tourisme ?
Oui, dès lors qu'on a vu depuis 40 ans une explosion du tourisme, des infrastructures en Espagne, en Grèce, il n'y avait plus de limites. Et maintenant, on se retrouve dans des situations où il y a une offre excédentaire face à une demande qui peut faiblir. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucune réflexion. On a cru que c'était une manne infinie et qu'on en est pour l'éternité, alors que on voit qu'il y a quand même une réflexion à porter sur les infrastructures qu'on offre. Et est-ce qu'il ne faut pas se demander si la situation présente, elle est anormale, mais l'anormalité était déjà vue et peut-être conçue avant. Et peut-être si on avait réfléchi un peu, mais quel tourisme voulons-nous? Est-ce qu'il faut absolument construire des hôtels à non plus finir sur la Costa Brava ou à Majorque? Je pense que là, il y a eu une lacune quand même au niveau des réflexions qui ont été menées par les autorités nationales, mais locales. Peut-être que l'offre est excédentaire et qu'on va se trouver dans des situations peut-être très pénibles pour ces pays qui n'auront plus accès peut-être à une clientèle pour différentes raisons, qui n'oseront plus venir parce que ce fichu Covid va revenir sous une forme ou sous une autre. Donc là, il y a un réel problème.
On va voir effectivement si cette crise du coronavirus n'est pas l'occasion de repenser le modèle touristique européen. Mais encore un mot sur la réouverture des frontières. La France les a réouvertes au pays de l'espace Schengen le 15 juin. Mais avant elle, l'Italie avait créé la surprise en annonçant être en mesure d'accueillir les touristes européens dès le 3 juin. Ce qu'il faut peut-être expliquer ici, Philippe Viollier, c'est que l'Italie, principale foyer de l'épidémie en Europe, a vu son tourisme être frappé de manière particulièrement violente.
Oui, bien sûr, mais bon, l'Italie, parce que évidemment, ça a été un pays qui a été fortement touché, où il y a eu beaucoup de communication sur le cas de l'Italie. Bon, inversement, on a un petit peu dit assez vite qu'au Portugal tout allait bien, puis on voit bien que actuellement on est en train de reconfiner. À Lisbonne. En fait, pour tous ces pays, il y a un enjeu plus important, mais bon, cet enjeu, on le retrouve en France. Hein. Je veux dire, pour la France aussi, la situation, enfin, pour les professionnels du tourisme, la situation est dramatique. Hein,
mais vous l'avez dit, en France, c'est 7% du PIB, le tourisme. Oui. Là où c'est plus autour de 12-13% pour l'Italie et pour l'Espagne. Mais ce qu'on voit, c'est que l'Espagne n'a pas fait le même choix que l'Italie au départ. Enfin, a mis plus de temps à rouvrir ses frontières. Elle a finalement cédé aux professionnels du tourisme.
Oui, mais tout, évidemment, parce qu'à partir du moment où il y a des pays qui commencent à, comme l'Italie, bon, voilà, qui s'engagent, automatiquement, les autres craignent. Parce que, par exemple, pour la France, bien sûr, c'est 7%, donc on peut dire que c'est moins, mais c'est toujours un pourcentage par rapport à une économie globale. C'est-à-dire que l'économie française étant plus diversifiée, le poids du tourisme est faible, mais globalement, le tourisme, enfin, en tout cas, le tourisme, bon, qu'on peut dire rapidement international, donc les personnes qui ne résident pas en France et qui viennent en France, ça représente à peu près 20-25 milliards d'euros, donc ce qu'on appelle la balance touristique, hein, c'est-à-dire la différence entre les dépenses des personnes qui résident en France à l'étranger et les dépenses des personnes qui résident à l'étranger en France, ça veut dire que c'est un apport à l'économie de 20 à 25 milliards chaque année. Or, 20 à 25 milliards, c'est 2 à 3 fois plus que l'apport de l'agroalimentaire.
C'est en effet considérable. Et ce qu'on peut voir parmi les différentes décisions qui ont été prises par les pays européens, c'est que la Grèce est allée plus loin. Elle a même ouvert ses frontières aux vacanciers non européens avant ses voisins dès le 15 juin. C'est lié au fait que la Grèce a été largement épargnée par l'épidémie, Laurent Tissot ?
Alors oui, en partie, mais il faudrait rajouter à ce qui vient d'être dit que peut-être que la dimension nationale est trompeuse, c'est quand même une dimension très régionale et locale, et en France, la Côte d'Azur, elle vit beaucoup plus que de 7%, c'est une quand même une activité au niveau des hôteliers, des infrastructures, des plages, etc., qui est beaucoup plus importante. Donc peut-être que la dimension nationale et ses moyennes nationales n'indique pas la réalité des choses pour un certain nombre de régions, de villes, de provinces qui en vivent. Et sans le tourisme, c'est toute une région qui, en quelque sorte, devient inactive parce qu'il n'y a rien d'autre. Donc pour la Grèce, alors il est bien clair que on a là une course un peu stupide et folle parce qu'on est en pleine incertitude et je trouve que ces effets d'annonce peuvent amener quand même des désenchantements et des mauvaises surprises qui seraient quand même très tristes pour le tourisme et aussi pour les pays d'accueil.
On peut se demander si ce sont les pays qui ont été le moins touchés par l'épidémie qui vont connaître le plus grand succès auprès des vacanciers cet été. Exemple avec le Portugal.
Le gouvernement transmet un message de confiance. On commence d'ailleurs à sentir un frémissement de la demande, surtout de l'Espagne, de l'Allemagne et puis aussi de la France.
Le Portugal a plutôt bien géré la crise du coronavirus. Donc je pense que le pays ne sera pas trop touché. Les étrangers n'auront pas peur de venir.
Le Portugal a été exemplaire face au Covid. C'est pour ça qu'il va être très recherché. Vous allez voir, dans un mois, cette rue, elle sera pleine de monde.
Les professionnels du tourisme sont prêts au Portugal, mais de nouveaux cas de coronavirus sont apparus à Lisbonne et le gouvernement portugais a décidé de rétablir des mesures de confinement dans la capitale. Il y a un vrai risque, Philippe Violier, de rouvrir les frontières trop vite et de voir revenir le virus en Europe. On a le sentiment que peut-être que les gestes barrières sur les plages, ça va être compliqué.
Oui, mais enfin globalement, on voit bien c'est ce qui se passe à travers le monde, c'est-à-dire qu'il y a des retours du Covid ici ou là. Bon, donc c'est assez compliqué d'imaginer ce qui va se passer. Bon, ça c'est clair. Bon, après effectivement sur les plages ou encore pire dans les boîtes de nuit, la situation effectivement est assez sera très difficile à gérer.
L'argument de la sécurité figure en bonne place parmi les arguments des pays du Sud pour attirer les touristes, Laurent Tissot, même s'il n'est pas le seul.
Ah, mais c'est fondamental et c'est essentiel. Et moi, la question que je me pose, c'est de savoir si la clientèle va répondre. Parce que c'est vrai, ces effets d'annonce de responsables touristiques qui disent que tout va bien, on sait que c'est pas vrai. Donc, est-ce que ça va créer une incertitude et des craintes chez les consommateurs qui préféreront soit rester chez eux ou faire un tourisme beaucoup plus de proximité. Donc moi, j'ai quand même un certain nombre de doutes sur la faculté des clients, de la clientèle, des consommateurs à vraiment entrer dans le jeu. Et tant que, je crois que le tourisme, comme les banques et comme la bourse, n'aime pas les incertitudes. Dès qu'il y a une incertitude, on n'y va pas parce qu'on prend des risques. Et on a vu, il y a d'autres exemples historiques qui montrent s'il y a un attentat, s'il y a une catastrophe naturelle, on attend que les choses vraiment reviennent à la normale. Là, elles sont pas à la normale. On, comme vous l'avez dit, il y a une incertitude qui peut-être va priver ces pays, eh bien, de l'apport espéré d'un flux régulier et massif de touristes.
Et pour tenter de diminuer cette incertitude, il y a un certain nombre de stratégies qui sont mises en œuvre par les pays du Sud. Je pense en particulier au label Clean and Safe que le gouvernement portugais a mis en place pour les hôtels, restaurants, compagnies aériennes, aéroports et voyagistes qui s'engagent à respecter des règles sanitaires strictes. Il y a aussi évidemment des stratégies plus classiques de prix cassés pour attirer les touristes. Chypre propose même de rembourser les vacances des touristes qui tomberaient malades du Covid-19. Est-ce que ces mesures, Philippe Violier, sont susceptibles de sauver cette saison touristique pour les professionnels du secteur?
On peut penser qu'en partie, ça peut inciter effectivement quelques personnes hésitantes. Mais ce qui est probable aussi, c'est que les pouvoirs d'achat ont été affectés pendant la période du Covid. Il y a des millions de personnes qui ont été en chômage technique ou partiel, donc qui n'ont pas perçu la totalité de leur salaire. Par ailleurs, on voit des entreprises qui négocient ou qui imposent une réduction de la période de congé. Donc il ne suffit pas, je dirais, d'inciter les gens, enfin de leur faire des promesses, des cadeaux, etc. Il faut aussi que, de toute façon, ils aient les moyens de partir, quoi. Donc probablement, sans bien sûr en être sûr, mais on peut penser que probablement cet été sera pas un grand été touristique, quoi. C'est probable.
Vous pensez, Philippe Violier, que les vacanciers vont partir moins loin et moins longtemps?
Bah, probablement, hein. Ils vont. Par exemple, c'est ce qu'on voit, si vous voulez, quand on regarde l'évolution sur le long terme. Donc la période de prospérité économique, donc d'après-guerre, quoi, globalement de 1950 à 1975-80, a accompagné donc le développement du tourisme, la diffusion sociale du tourisme. Hein, on est passé à 60-70% de la population qui a une pratique touristique dans les pays économiquement les plus avancés, hein, donc de l'Europe du Nord-Ouest, et puis avec donc à partir des années 80, bon, la croissance économique est beaucoup plus atone, les taux de croissance sont plus faibles année après année, enfin bon, avec des périodes plus de crise plus avancées, comme enfin plus prononcées comme en 2008-2009. Bon, et eh bien on a vu que le tourisme s'est maintenu, mais tout d'abord la diffusion sociale s'est arrêtée, hein, c'est-à-dire que celles et ceux, les non partants, comme on dit, ben voilà, ils restent au bord de la route. Et puis par ailleurs, ceux qui partent, eh bien, ont développé des stratégies pour continuer à partir, mais bon, en diminuant d'une journée, en partant moins loin, en faisant voilà, on a bon, donc et ça c'est ça va, ça vient en quelque sorte, hein, c'est-à-dire que depuis les années 80, une bonne année, on va se traduire par plus de départs à l'étranger, donc plus loin, plus longtemps, etc. Et puis une année moins bonne, une année de stagnation du pouvoir d'achat, eh bien il y a un petit reflux, voilà. Donc bon, là quand même la période de la crise ayant été sévère, a fortement affecté les pouvoirs d'achat, donc on peut penser que là il va quand même y avoir un tassement assez important, quoi.
Eh bien, je vais poser la question à l'historien.
Les prévisions tablaient sur eux. Pardon.
Je vais poser la question à l'historien qui est Laurent Tissot. Vous êtes d'accord avec cette idée selon laquelle le tourisme est particulièrement dépendant de la conjoncture économique ?
Ah oui, mais je dirais que c'est sa caractéristique. Le tourisme est tout de suite touché par des événements, que ce soit économiques, politiques, militaires, géostratégiques, climatiques. Il est tout de suite acculé, en quelque sorte, à attendre que cela se passe et à reprendre vie. Mais si le tourisme est très sensible aux oscillations conjoncturelles, il a aussi la faculté d'oubli, c'est-à-dire de faire oublier qu'il y a eu un événement qui maintenant se souvient encore de l'attentat du 11 septembre qui a bloqué le tourisme, ou les attentats de Tunisie. Encore un peu maintenant, c'est vrai que la Tunisie a un peu de peine à redémarrer, mais
il y a une amnésie du vacancier.
Oui, exactement. On veut oublier parce qu'on veut, en quelque sorte, prouver que tout va bien et que il n'y a aucune crainte. Mm. Et peut-être que là, nous entrons quand même dans une période où l'activité touristique pour ces pays est quand même, la reprise est quand même très problématique. Et moi, je trouve qu'on marche sur la tête quand on entend ce que vous avez dit pour Chypre. Ça devient, on va nous payer pour aller en vacances. Donc ça devient complètement fou. Là, on est vraiment en dehors de tout raisonnement économique admissible. Je ne sais pas comment les économistes vont analyser ça, mais je ne sais pas. Cette incertitude-là, elle va quand même peser à moyen terme sur le tourisme. Alors, peut-être que cet hiver, ça repartira gentiment, et puis l'été prochain, ce sera de nouveau le Covid oublié. Ce sera de nouveau le plein emploi.
Et sans doute faut-il distinguer entre les vacanciers qui restent dans leur pays d'origine et les vacanciers qui partent à l'étranger. Vous le disiez, Philippe Viollier, 60-70% de la population des pays riches a aujourd'hui une pratique touristique. Mais l'année dernière, les Français étaient seulement, si je puis dire, 9 millions à passer les frontières au mois de juillet et d'août. Ils sont moins nombreux en pourcentage à quitter leur pays, par exemple, que les Allemands ou les Anglais.
Oui, tout à fait. Le taux de départ hors des frontières, donc des Français, c'est 25%, hein, alors que les Allemands, c'est 60, les Britanniques, c'est 35-40. Bon, mais ça tient au fait que, je dirais, la pratique principale pour les Européens, c'est la plage l'été. Hein, c'est là les grands flux, c'est la plage et la plage des pays chauds, justement des pays méditerranéens. Or, la chance de la France, c'est de posséder une façade maritime enfin méditerranéenne et Atlantique Sud, donc des littoraux chauds. Mm. Du coup.
Mais on peut tout de même se demander, Philippe Viollet, pardon de vous couper, si le tourisme intérieur ne va pas avoir une plus grande importance. On en parlait hier pour la France, mais ça pourrait être le cas aussi pour le Royaume-Uni, puisque la Grande-Bretagne impose depuis le 8 juin une quarantaine de 14 jours à tous les voyageurs qui arrivent de l'étranger, y compris les Britanniques. Donc on imagine que les Britanniques vont être moins nombreux à quitter leur pays, avec toutes les conséquences que ça pourrait avoir pour tous les pays qui les accueillent habituellement.
Oui, alors c'est compliqué à interpréter, parce que pour les Britanniques, il y a d'autres raisons. Hein, il y a en particulier, avec le Brexit, l'effondrement de la livre. Donc pour les Britanniques, ça devient plus coûteux d'aller dans des pays, dans les autres pays européens, en particulier en France. Donc il y a ça, déjà ça va jouer effectivement dans ce sens-là. Après, ce qui peut contrebalancer ça, c'est qu'il y a de nombreux Britanniques qui ont des résidences secondaires en France et en Espagne. Donc de toute façon, pour eux, voilà. Et puis le gouvernement britannique peut bien mettre en place des mesures, etc. Je pense que les citoyens britanniques vont développer des ruses qui leur permettent de faire ce qu'ils ont envie de faire. Hein. Je me souviens, moi, par exemple, je crois que c'était en 1984, hein, lorsque le gouvernement à l'époque, de Laurent Fabius, qui a succédé à Pierre Mauroy, a mis en place des mesures restrictives, hein, pour les déplacements à l'étranger, pour les sorties de devises. Ça n'a pas empêché les gens de sortir les devises qu'ils voulaient, par des moyens plus ou moins masqués ou légaux, ou etc.
On observe des stratégies celle que vient de décrire Philippe Viollier dans l'histoire, Laurent Tissot, pour échapper à ces restrictions de déplacement.
Oui, il y a plein d'exemples de ce type. Je crois que rien n'est plus facile de trouver des échappatoires ou des trous dans le filet pour aller où l'on veut. La capacité d'imagination est là et sans limite.
25% des Français passent les frontières pour partir en vacances, nous disait Philippe Viollier. Et leur première destination à l'étranger, c'est l'Espagne. En 1961, déjà, Jean Cocteau expliquait à la radio-télévision française pourquoi il partait à Marbella, sur la Costa del Sol.
C'était un lieu tout à fait désert il y a quelques années, parce qu'il n'y avait pas de route. Et alors maintenant, c'est une sorte de lieu résidentiel. Il y a des grands espaces et des très petites maisons. Parce que tout près, il y a maintenant Torremolino qui est devenu comme Jean Lépin. C'est-à-dire que là-bas, la vie est très lente. Il y a de grandes plages désertes. On se baigne le matin. La plage est au bout de ce pré avec olivier et figuier plat et beaucoup de fleurs. Parce que Marbella est entre la mer, la Méditerranée atlantique, beaucoup plus fraîche et plus vive que la nôtre, et la montagne qui est radioactive. Alors, toutes les fleurs, les plantes, les arbres sortent du sol comme les drapeaux d'un haute forme d'illusionniste. C'est incroyable. En plus, j'ai une amie qui est souffrante et c'est le meilleur climat pour les bronches. Et on se baigne le matin. Vous savez, on déjeune à 3h, 4h, ensuite c'est la sieste et on commence à travailler vers 6h.
L'Espagne est devenue, dans les années 60, une destination de prédilection pour les Français, Laurent Tissot.
Oui, et là c'est un paradoxe. Dès lors que l'Espagne était une dictature, c'était un pays fermé et le gouvernement de Franco a mis le paquet sur le tourisme pour bien sûr avoir des devises. Et certains historiens montrent et appuient la thèse selon laquelle finalement si la dictature est tombée, c'est à cause du tourisme. C'est à cause de la venue, non seulement de Français, mais il y avait aussi beaucoup de Britanniques. Donc là, c'est un peu une question qui fait que le tourisme s'adapte à tout. Et on peut aller dans les pires régions du monde. La dictature de Franco était quand même dénoncée par beaucoup de pays, dont la France à l'époque. Et pourtant, les Français y allaient et trouvaient, comme Cocteau, des endroits silencieux, tranquilles.
À l'époque, très calme.
Très calme, il n'y a pas de route, il y a beaucoup de fleurs. Et c'est un peu le côté paradoxal du tourisme qui casse toutes les frontières, non seulement politiques, mais peut-être économiques, on l'a dit tout à l'heure, sociales, etc., pour implanter et pour s'implanter dans des pays qui ne sont pas forcément les plus sympathiques. Et beaucoup d'Espagnols en 1960 étaient en prison et souffraient de cette terrible dictature.
L'Espagne est peut-être un cas d'école, Philippe Viollier, pour le géographe que vous êtes, au sujet sur cet impact du tourisme sur un paysage et sur une économie.
Oui, tout à fait. Le tourisme joue un rôle très important en Espagne, parce que, par exemple, on peut citer que les Baléares sont devenus la deuxième région économique d'Espagne après Madrid et à égalité avec la Catalogne. Donc c'est un énorme progrès. L'Andalousie, idem, qui était une région complètement marginale dans les années 60. Mais ça, en fait, cette mise en tourisme de l'Espagne, elle est aussi liée à une évolution des comportements, des pratiques des touristes. C'est-à-dire que, en fait, jusqu'aux années 1920-1930, la pratique dominante, c'était le bain froid et l'esthétique de la peau blanche. C'est seulement à partir des années 20 et 30 qu'on a basculé vers le bronzage et le bain chaud. Et c'est donc à partir de ce moment-là... voilà. Et alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que, en fait, ce sont des représentations, c'est-à-dire le fait de considérer que, finalement... la peau brune est plus belle que la peau blanche ou que le bain chaud est mieux que le bain froid. Bon, ça c'est des représentations, mais ce qui est très étonnant, c'est que ça marche. C'est-à-dire, comme l'a dit Jean Cocteau, voilà, ça a des effets sur notre corps. Tout se passe dans la tête, mais le corps va mieux. Bon, ça, c'est absolument étonnant.
On va revenir sur les évolutions de ces représentations, mais encore un dernier mot, peut-être Philippe Viollier, sur ce succès touristique en Espagne à partir des années 60. C'est notamment ce qui a contribué à l'essor industriel du pays.
Disons que effectivement, ça a joué un rôle très important dans l'économie espagnole, parce que ça a été un apport de devises, ça a été une activité économique, et surtout, ce qui est très important aussi, c'est que le tourisme, c'est une activité économique qu'on qualifie de motrice, c'est-à-dire c'est une activité économique qui en entraîne les autres. En particulier, la présence des touristes, ça augmente, par exemple, la consommation de produits alimentaires. Voilà, donc du coup, ça attire toute l'économie.
Comment l'Europe est-elle devenue la première destination touristique du monde? On en parle dans un instant, mais d'abord, nous avons rendez-vous dans la lagune avec le groupe Mansfield Tia, Bleu Lagon, sur France Culture.
France Culture, entendez-vous l'écho? Tiffaine de Roquigny.
J'ai tellement grincé des dents, je voulais partir et m'échapper dans un lagon abandonné.
Mansfield Tia sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho. Nous poursuivons notre tour d'Europe avec le géographe Philippe Viollier, l'historien Laurent Tissot. À quand remonte l'engouement des voyageurs européens pour les littoraux méditerranéens? Pour le comprendre, il faut rappeler que le tourisme a d'abord été une pratique culturelle avant de devenir un phénomène de masse. C'est ce que nous apprend l'histoire du tourisme, Laurent Tissot.
Oui, bien sûr qu'il y a un grand épisode de l'histoire européenne, c'est le Grand Tour, dès la fin du XVIIe et surtout au XVIIIe, voit les enfants des grandes familles aristocratiques ou aussi de la grande bourgeoisie anglaise, britannique, mais pas seulement, danoise, belge, se rendre en Italie et sur les rives de la Méditerranée pour, en quelque sorte, voir ce qu'est le berceau de notre civilisation, c'est-à-dire la civilisation antique. Donc, alors, il n'y a pas cet appel de la mer, on ne va pas forcément y baigner, mais on va, c'est un lieu de destination qui est absolument essentiel dans l'éducation et la formation de tout fils des grandes familles aristocratiques. Et ce flux, qui est quand même assez important, a entraîné alors ensuite, bien sûr, une meilleure connaissance de la mer. Et comme l'a dit Philippe Voyer, à la fin du 19e, dès du 20e, il y a ce retournement tout d'un coup vis-à-vis du soleil et de la mer. C'est pas seulement un spectacle, la mer, mais c'est un lieu où on s'y baigne. Donc, elle nous rend bien au niveau de la santé et de l'aspect du corps. On est valorisé au travers de ces pratiques.
Avant d'en venir à ce retournement, il faut peut-être préciser aussi que le mot tourisme vient lui-même du Grand Tour, Laurent Tissot, et aussi que c'est de ce Grand Tour des aristocrates britanniques qui vont être imités par beaucoup d'autres aristocrates européens. C'est de ce Grand Tour que vient le nom de la promenade des Anglais à Nice, par exemple.
Oui, parce que les Anglais, ils marquent de leur empreinte là où ils vont. Il y a la promenade des Anglais, mais vous avez aussi beaucoup d'hôtels d'Angleterre, Victoria, etc., qui existent encore aujourd'hui. Donc, ils sont un peu les pionniers. Bon, il faut pas quand même exagérer. Ils étaient pas seuls, mais c'est vrai qu'ils ont été les personnes qui ont marqué de leur empreinte les lieux où ils allaient. Et après, bien sûr qu'il y en a eu d'autres. Et puis, au 19e, les Anglais, c'est les grands vainqueurs. Enfin, c'est le colonialisme, l'impérialisme. C'est l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Donc, ils étaient en capacité, en position de marquer leur présence. Mmh. Et c'était difficile pour d'autres nationalités de rivaliser.
Philippe Biollier, sur ce grand tour du XVIIIe siècle, ancêtre du tourisme que l'on connaît aujourd'hui.
Oui, disons que peut-être pour compléter, il y a effectivement le grand tour, mais il y a aussi d'autres prémices, enfin, ou ce qu'on peut appeler des pré-tourismes, en particulier la villégiature aristocratique, hein, donc les aristocrates qui retournaient dans leur domaine à l'étonne ou pour surveiller les récoltes, mais aussi pratiquer la chasse, ou voire même aussi les loisirs, je parle des guinguettes au bord de la Marne, etc. Bon, là c'était pas très loin, c'était voilà pour les citadins du 18e, 19e qui n'avaient pas les moyens de se déplacer tels qu'on les a aujourd'hui, quoi. Mmh. Donc voilà, mais effectivement il y a tous ces on peut considérer que le tourisme a été inventé au 18e en même temps que la révolution industrielle, mais avec des formes effectivement de qui l'ont préparé, quoi.
Autre voyageur, le poète allemand Goethe publie en 1816 Le Voyage en Italie, récit du tour qu'il a effectué en 1786 depuis le col de Brenner qui sépare l'Italie de l'Autriche jusqu'en Sicile. Écoutons-en un extrait lu par l'essayiste et romancier Marcel Brion.
J'ai passé en silence les heures les plus agréables dans le jardin public, tout près de la rade. C'est l'endroit le plus merveilleux du monde. Le jardin est sur un plan régulier et semble pourtant l'ouvrage des fées. Planté depuis peu de temps, il nous transporte dans l'Antiquité. Des bordures vertes encadrent des plantes étrangères, des citronniers en espalier se courbent en gracieux berceaux, de hautes parois de lauriers roses, parées de mille fleurs rouges en œillets, séduisent le regard. Des arbres tout à fait étrangers, nouveaux pour moi, encore sans feuillage et apparemment de pays plus chauds, déploient des rameaux étranges. Les plantes ont une verdure à laquelle nous ne sommes pas accoutumés, tantôt plus jaunâtre, tantôt plus bleuâtre que chez nous. Mais ce qui donnait à l'ensemble une grâce singulière, c'était une forte vapeur qui se répandait sur tout uniformément, avec un effet si remarquable que les objets, à la distance de quelques pas seulement en arrière les uns des autres, se distinguaient par un ton bleu clair plus prononcé, en sorte que leur couleur propre finissait par se perdre, ou que, du moins, ils s'offraient à l'œil fortement azuré.
Laurent Tissot, ce qu'on entend bien dans ce texte de Goethe, c'est que pour le poète, le voyage en Italie correspond à la découverte d'une végétation exotique.
Oui, il y a l'aspect du paysage. Ça, c'est clair. Alors, bien sûr, ce genre de narration, alors, sans atteindre le génie littéraire de Goethe, vous en trouvez plein dans la littérature, et dès lors que vous avez, enfin, la volonté d'inscrire votre voyage et de l'immortaliser par les mots. Et ce que dit Goethe, c'est peut-être, ça a une résonance aujourd'hui. Pour lui, l'Italie, c'est un exotisme. Mmh. C'est un pays différent, autre, qui présente autre chose. Alors, bien sûr que maintenant, l'exotisme, c'est vraiment ailleurs, en Asie ou en Afrique. Mais je trouve que c'est un processus qui est tout à fait intéressant dans l'histoire touristique, c'est de voir comment ces gens voient le nouveau, voient l'inconnu, et comment ils arrivent à le retranscrire, soit par la peinture, soit par les mots, soit par des journaux de voyage intimes, des correspondances. Et on voit des sensibilités là qui se forment. Mais bien sûr, le problème, c'est que tous n'ont pas la capacité d'émotion de Goethe, qui n'est pas un exercice donné à tout le monde, malheureusement, peut-être.
Mais ce sont en tout cas des rencontres culturelles qui ont lieu à ce moment-là, Philippe Viollier, et qui participent de la création aussi d'une unité européenne.
Oui, tout à fait, parce que en fait, c'est... Enfin, donc le tourisme, c'est aussi aller à la rencontre de l'autre, hein, donc d'échanger, donc une rencontre et des échanges, bon, qui sont pas toujours, enfin, qui sont pas toujours faciles, parce que ne serait-ce que parce que il y a des différences de langue, linguistique, etc. Il y a aussi le fait que les habitants sont pas forcément disponibles au moment où les touristes arrivent, mais voilà, il y a une échange, et ça rejoint aussi bon, ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la dictature en Espagne, c'est-à-dire aussi pour une part ce besoin d'aller voir un peu par soi-même comment ça se passe, quoi, hein, et du coup d'en rapporter, quoi, une information personnelle, parce qu'on a vu ça aussi, bon, à propos de Cuba ou etc., quoi.
La curiosité comme moteur, effectivement, et oui. Puisqu'on va constater au 19e siècle, pardon, c'est l'émergence du tourisme tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire une extension du nombre de voyageurs grâce à la révolution industrielle et au développement du chemin de fer, Laurent Tissot.
Oui, et on peut dater ça du milieu du 19e siècle, au moment où on peut parler d'industrie touristique. Dès lors que vous avez des organismes, des dispositifs comme les agences de voyage, vous avez Thomas Cook, mais d'autres, qui mettent en place des infrastructures permettant un nombre important de voyageurs, mais venant de classes sociales moins aisées, de pouvoir voyager. Alors c'est le concept du voyage organisé, all inclusive. Au début de Cook, tout était compris, donc il n'y avait même pas besoin d'argent avec soi, parce que vous avez la possibilité d'acquérir les éléments en fonction de ce que vous avez versé avant à l'agence. Donc là, il y a un décrochement qui se fait, et cette industrialisation du tourisme, elle s'opère alors assez rapidement, puisque à la fin du 19e siècle, vous avez, et Thomas Cook le fait, vous avez des agences de voyage qui vous offrent le tour du monde. Donc c'était cette capacité à domestiquer, à dominer des espaces immenses, parce que le tour du monde, c'est quand même, peut-être aujourd'hui ça devient un peu banal, mais à l'époque c'était quand même quelque chose de très important.
Mais donc qui là, sont les clients de ces agences de voyage, et notamment de Thomas Cook? Qui peut se permettre un voyage autour du monde au 19e
siècle? Alors là, on a affaire à une clientèle effectivement très restreinte qui peut financièrement se la payer, mais comme on l'a dit, là, le 19e siècle est quand même une source d'enrichissement pour la bourgeoisie et la grande bourgeoisie. On a des gens qui font des fortunes immenses et qui peuvent se payer cela. Alors, bien sûr que c'est pas une distraction qui est offerte à tout le monde, et Cook a une offre qui est beaucoup plus grande que cela, il va partout, hein, mais il peut offrir ce genre de prestations. Et donc il est sensible au fait qu'il a une clientèle qui a des moyens financiers différents, et il va affiner ses programmes, ses expéditions, ses prestations en fonction des clientèles, notamment en essayant de trouver des hôtels de différents standards, de différents standings, d'où l'apparition à peu près à ce moment-là des étoiles, enfin voilà, des 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles.
Et des premiers guides touristiques aussi dans les années 30. Les fameux guides Murray.
Voilà, qui donnent des informations supplémentaires dès lors que le guide, en principe, décrit précisément et donne des informations précises au consommateur ou au client, au lecteur, qui peut après s'adresser aussi aux agences de voyage. Mais Thomas Cook a ses propres guides de voyage. Donc là, il y a une espèce d'explosion des initiatives qui permet finalement de voir comment cette activité est devenue si importante et si essentielle. Alors il y a une offre, et bien sûr que cette offre a créé un besoin, mais le besoin a aussi créé l'offre. D'ailleurs, que le touriste aussi apportait ses propres idées, ses propres impulsions et ses propres visions sur la façon dont on gère un voyage et le plaisir. Comment est-ce qu'on le conçoit et on le matérialise.
Ces nouvelles façons de voyager dont on parle ici, Philippe Viollier, préfigurent ce qu'on appellera ensuite le tourisme de masse.
Oui, tout à fait. C'est le début. Hein. C'est le début, effectivement, Thomas Cook qui a étudié Laurent. C'est le début, effectivement, de la diffusion du tourisme. Hein. C'est-à-dire, pour définir le tourisme de masse comme l'accès du plus grand nombre au tourisme. Hein. Parce que l'expression tourisme de masse est utilisée aussi par des gens, on ne sait pas trop pourquoi, qui le condamnent.
Elle a désormais mauvaise presse.
Oui, elle a très très mauvaise presse, y compris dans des magazines de gauche, ce qui est toujours assez intéressant. Je peux citer le Nouvel Observateur, par exemple. Bon. C'est assez étonnant. Hein. En réalité, enfin, je veux dire, le tourisme de masse, ça a été le moment. Enfin, c'est une période. Alors pour la France, c'est à partir des années 70, hein, 60-70, où je dirais, on passe à une majorité de la population, si on peut se fixer le seuil de 50%, qui commence à avoir une pratique touristique. Hein, parce que donc l'INSEE mesure ça dans les années 70. L'INSEE mesure ce qu'elle appelle les vacances, c'est-à-dire des séjours de 4 nuitées consécutives. Hein, voilà. Donc, alors qu'aujourd'hui, on utilise une seule nuitée. Hein. Voilà, donc le 50%, il est passé en 73, et à partir de ce moment-là, effectivement, on peut dire que le tourisme devient une pratique largement partagée par la société, même s'il y a encore des exclus, hein, bien évidemment. On peut penser qu'il y a à peu près 10 à 15% d'exclus, hein, puisque en fait, il reste aussi une frange peut-être aussi de 10 à 15% de gens qui sont pas intéressés. Je veux dire, on n'est pas non plus obligé d'être touriste. Hein. Bon, il y a des gens qui voilà qui partent pas, soit une année à un moment donné parce que ils ont autre chose à faire, ils construisent une maison, ils attendent une naissance ou etc. D'autres disent benoîtement qu'ils ont un animal domestique, ils peuvent pas partir. Bon, voilà. Donc il y a des gens qui partent pas. Il y a des gens aussi qui disent bon voilà moi j'aime pas partir, je reste chez moi, je reste dans ma région, j'en profite pour découvrir ma région. Voilà. Bon. Donc à partir de là, on peut dire que voilà, le tourisme de masse, c'est ça, c'est le moment où le plus grand nombre peut partir. Et si le plus grand nombre a pu partir, c'est parce que justement les tour opérateurs ont réussi à construire une offre touristique qui soit bien maîtrisée, qui soit de fait standardisée pour obtenir les meilleurs prix et pour qu'elles conviennent au plus grand nombre.
C'est aussi parce que voilà, l'État a pris conscience, en particulier après la création des congés payés en 1936, de l'intérêt de développer le tourisme. En 1967, le général de Gaulle commande une station balnéaire dans le Languedoc, c'est la Grande Motte.
Parce que la Côte d'Azur est devenue pendant les mois d'été une région surpeuplée, parce que chaque année le nombre des gens qui prennent leurs vacances au bord de la mer augmente, un projet est né. Celui de créer et de développer les ressources touristiques des 180 km de côte du Languedoc-Roussillon. Plus de 2000 hectares de terrain ont déjà été réservés dans ce but. Les premiers travaux d'aménagement doivent comporter l'assainissement du littoral, la lutte contre les moustiques et la construction de routes reliant entre elles les différentes plages.
La Grande Motte émerge des marais du Languedoc dans les années 60 et elle est le fruit d'une volonté étatique forte, Philippe Viollier.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, bon, ce qu'il faut préciser, d'ailleurs, je me permets, si vous voulez, de préciser ce que vous avez dit. En fait, le 1936, le Front Populaire n'a pas créé les congés payés. Hein, il les a généralisés. Hein. En fait, les congés payés existaient déjà pour certaines catégories de la population, notamment les fonctionnaires. Voilà.
C'est bon, important donc, de le préciser.
Oui, voilà. Donc il y a effectivement cette généralisation des congés payés, mais je crois que fondamentalement, en fait, c'est, je dirais, il y a un besoin d'abord de loisirs, mais les loisirs, par définition, c'est un temps court et discontinu. Hein, c'est voilà, c'est le week-end, c'est le soir et tout. Bon, la société industrielle en ce développement a généré le besoin de loisirs et le besoin du tourisme, parce que en fait, on vit dans une société de plus en plus compliquée, avec de plus en plus de contraintes, d'interdits. ordi, etc. Bon, on voit bien aujourd'hui avec le développement des smartphones où les gens n'arrivent plus à décrocher, à se trouver un temps de une vraie pause. Bon, donc il y a un vrai besoin. Donc voilà, c'est ça. Hein. Donc parce que même même dans l'esprit des conseillers de Léon Blum qui l'ont incité à généraliser les congés payés, il y avait plus une logique d'éducation populaire. Hein, mais bon, voilà. Mais donc ça. Et en fait, l'aménagement de la côte du Languedoc-Roussillon, hein, qui est un aménagement quand même de 7 stations touristiques, hein, 7, hein, parce qu'il y a la Grande Motte, mais voilà, il y en a d'autres. Il y a Port-Camargue, le Cap d'Agde, voilà, hein, le Cap d'Agde qui aujourd'hui est la plus grande station française, hein, avec 200 000 lits. Bon, voilà. Et là, en fait, il y a eu effectivement, enfin, ça fait partie, je dirais, du projet gaullien, hein, de modernisation de la France. Donc voilà, de la manière qu'il y a eu le TGV, le Concorde, ben voilà, il y a aussi donc l'aménagement de ces stations. Alors bien sûr, avec cette idée de forcer l'accès du plus grand nombre au tourisme, mais aussi l'idée de stopper, d'arrêter de manière un peu bien sûr élégante tous les touristes du nord de l'Europe qui s'enfuyaient, enfin qui allaient vers l'Espagne.
Mmh, oui, hein, parce qu'on a parlé de l'Espagne, voilà, et du développement, voilà, des aménagements, voilà, sur la Costa Brava et sur la Costa del Sol. Qu'est-ce qu'on peut dire peut-être de l'Italie à la même période et des aménagements qui ont pu avoir lieu à ce moment-là?
Ah oui, tout à fait. On va retrouver également un développement touristique en Italie, peut-être davantage libéral. Hein. Il n'y a pas eu véritablement de grands plans, mais il y a un développement touristique considérable qui s'effectue en Italie.
Qui s'appuie plus sur le marché comme sur la Côte d'Azur, par exemple.
Oui, et sur le capital régional. Par exemple, je pense à Rimini, voilà, qu'on a étudié, où en fait, Rimini, c'est le capital régional. Hein, ce sont les familles de Rimini qui, d'ailleurs, aujourd'hui encore, contrôlent le tourisme à Rimini, qui ont accompagné le développement touristique. Quoi.
Sur cette naissance, sur ces aménagements qui permettent un essor du tourisme de masse, Laurence Tissot, et peut-être aussi sur la naissance des premiers clubs de vacances qui vont connaître un très grand succès, qui vont participer de ce mouvement.
Oui, bien sûr. Et là, peut-être, il y a deux éléments qu'il faut peut-être rappeler, c'est le fait qu'on arrive dans les années 60 à une génération qui a vécu la guerre. Donc finalement, c'est une génération qui veut oublier, qui veut jouir peut-être de moments plus sympathiques que ce qu'ils ont peut-être vécu durant la Deuxième Guerre mondiale. Et le deuxième élément, alors qui va booster tout ça, c'est l'émergence de la voiture populaire. Le tourisme automobile fait que là, on arrive, comme l'a dit Philippe, dans la catégorie du tourisme de base. Parce qu'il y a l'avion, il y a le train, il y a l'automobile qui convergent pour transporter de plus en plus de population et de gens. Et l'automobile va devenir le symbole de l'accès aux vacances, la Nationale 7. Enfin, vous avez tous ces images fantastiques encore aujourd'hui. Et non seulement on va avoir des plages surpeuplées, mais on va avoir des routes surpeuplées et des embouteillages à n'en plus finir, d'où la volonté des pouvoirs publics de créer des autoroutes, l'autoroute du soleil qui permet peut-être de faciliter les flux. Et cela, ça va se marquer, comme vous l'avez dit aussi, par la création des clubs. Et bien sûr, le plus grand club, c'est quand même le club Méditerranée, avec les... des frères, j'oublie le nom, Trigano, qui va là avoir un coup de génie de pouvoir concevoir une agence qui est hors contrainte, c'est-à-dire où tout est permis, et ça va être son grand...
Ça sera la recette de son succès.
Oui, exactement, c'est vraiment... des jeux, de la farine dans les piscines, enfin, on a des histoires extraordinaires de voir comment est-ce qu'on pouvait amuser les touristes, et ça a répondu. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on voulait sortir de la routine, alors totalement, et le club Méditerranée était l'élément absolument fantastique, dans un certain point, pour montrer qu'il faut vraiment jouir, comme le notait la chanson que vous avez passée, je crois qu'elle disait... en crever,
faire la fête en crever.
Oui, exactement, mais c'est peut-être la symbolique qui a habité Trigano dans la construction de ce qui a été un...
Alors, On a, je crois, perdu Laurent Tissot. Je vais vous faire réagir, Philippe Viollier, sur ce que disait Laurent Tissot, sur ce besoin d'évasion, ce besoin de sortir de la routine. Peut-être qu'il faut revenir sur ce point, à la définition du tourisme que l'on trouve chez Norbert Elias, pour bien comprendre ce que cherchent les vacanciers dans le fait de partir en vacances.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, donc Norbert Elias et Eric Dooning ont publié donc un ouvrage dont le titre est Sport et civilisation, la violence maîtrisée. Alors, en fait, c'est un ouvrage qui est traduit en France en 1994. Donc, je me souviens plus de sa date de parution en Angleterre. Bon, mais c'est un ouvrage dans lequel donc Norbert Elias et Dooning essayent de définir le loisir. Donc, leur problème à eux, c'est d'expliquer pourquoi le sport a été inventé pendant la révolution industrielle, hein, parce que bon, je passe rapidement pour dire que les Jeux Olympiques de l'Antiquité, ça n'a rien à voir avec le sport, hein, c'est un exercice militaire. Bon, donc pour eux, le sport a été inventé pendant la révolution industrielle, et ils élaborent ce qu'ils appellent le spectre du loisir, où ils distinguent trois grandes catégories. Hein, il y a le temps libre du quotidien, mais où on fait des activités qui sont extrêmement contraintes, par exemple la toilette, s'occuper des enfants, etc. Ensuite, il y a le temps qui est partiellement efficace pour se détendre, qui est donc intermédiaire et qui est en fait des activités, par exemple associatives. Hein, c'est-à-dire ça fait partie du temps libre. On choisit de le faire, mais on s'impose quand même des contraintes. Et enfin, il y a la troisième catégorie, qui est le temps qui est vraiment permet de se détendre, de se reconstruire, de se recréer. Et parmi cette catégorie-là, il y a à nouveau trois degrés. Et dans le degré le plus efficace, ils expriment partir pendant ses vacances. Hein, donc ils n'utilisent pas le mot tourisme, et c'est avec des collègues, quand dans les années, au début des années 2000, on était à la recherche d'une définition et de donner du sens au mot tourisme, eh bien on s'est emparé de cette proposition pour dire voilà que en fait le tourisme c'est en fait une pratique qui a pour finalité la recréation des individus. Et pour le coup, donc, on a proposé d'utiliser le mot recréation, qui n'existe pas en français. Hein, donc, c'est un néologisme pour bien exprimer cette idée. Alors, Elias et Dooning, eux, ils parlent de déroutinisation. Hein, c'est-à-dire que pour eux, la société industrielle nous impose des contraintes, ce qu'ils appellent des routines, hein, des contraintes, notamment, ben voilà, ne serait-ce que la révolution industrielle, la création des usines, donc le règlement intérieur, donc tout ça est extrêmement contraignant, extrêmement épuisant, et le loisir, c'est un moment où justement on se recrée, et le tourisme, c'est le moment le plus efficace.
Hein, et on se recrée, Philippe Biollet, on se recrée à travers un mélange de repos, de sport et de découverte culturelle, ça ce sont les vacances.
C'est ça. Alors c'est donc les pratiques, ce qu'on appelle les pratiques touristiques, c'est effectivement donc il y a le repos, il y a la découverte. Alors nous on utilise plutôt le mot de jeu plutôt que sport. Hein, parce que le sport suppose une compétition institutionnelle. Hein. Or, les touristes ne font pas de compétition. Hein. Les touristes qui font du kayak en Ardèche, ils font tout sauf de la compétition. Quoi. Bon, donc on dit le repos, le jeu, voilà la découverte, la sociabilité. Hein. Bon, et puis récemment, on a ajouté le shopping parce que ça, c'est une pratique inventée par les Chinois. Par les extrêmes orientaux, donc les gens d'Asie extrêmement orientale, notamment les Chinois.
Bon. Et ce qu'on voit, c'est que c'est la Méditerranée qui va peu à peu incarner la découverte, le repos, le jeu, avec cette idée qui remonte pour le coup au XVIIIe siècle que l'eau est bénéfique pour le corps. Et là, on revient à ce que vous disiez, Philippe Viollet, sur la bascule des bains froids vers les bains chauds qui va être déterminante.
Tout à fait. Hein. Et donc, il y a un changement très important qui se produit dans les années 1920-1930. Changement qui est impulsé par les États-Unis. Hein. On sait bien que après la première et la deuxième guerre mondiale, les États-Unis prennent le leadership du monde occidental. Et c'est de eux que vient cette idée, hein, parce que bon, d'abord aux États-Unis, il y a des mers chaudes. Mais il y a également une partie de la population qui a la peau noire. Et c'est Jack London qui, le premier, dans un ouvrage qui s'appelle « La croisière du Snark » en 1907, va décrire de manière très positive, hein, très laudative, un corps bronzé. Voilà. Et après, on retrouve Scott Fitzgerald, dans son roman qui est paru en 1934, mais qui a été écrit en 1924, raconter cette arrivée des Américains sur la Côte d'Azur, alors que les Russes et les Anglais s'en vont, quoi. Hein,
et on retrouve aussi cela dans le grand roman de Thomas Mann, La Montagne Magique, paru en 1924. Écoutez plutôt. Joachim était de ce type très brun que sa blonde patrie ne laisse pas de produire quelquefois, et sa peau naturellement assez foncée avait, par le hâle, pris une couleur presque bronzée. Avec ses grands yeux noirs et la petite moustache brune au-dessus d'une bouche pleine et bien découpée, il eût été véritablement beau s'il n'avait eu des oreilles trop décollées. On entend bien ici, Philippe Violier, cette idée d'une beauté associée au teint bronzé, là où le teint pâle a été si longtemps admiré.
Tout à fait. Ça, c'est en fait le teint pâle était admiré parce que pour l'aristocratie, parce que c'est en fait l'aristocratie qui a largement, enfin qui pratiquait le grand tour et qui a été à l'origine de l'invention du tourisme. Eh bien, en fait, l'aristocratie, elle avait la peau blanche, parce que c'est les paysans, les paysannes qui avaient la peau bronzée.
On a retrouvé Laurent Tissot par téléphone. Ah. Peut-être un mot, Laurent Tissot, sur cette beauté associée au teint bronzé qui intervient à peu près à partir du début du XXe siècle.
Oui, disons que là, il y a une révolution des corps. Pour moi, c'est quand même révolutionnaire, ce basculement. Et l'extrait de Thomas Mann est intéressant. Bon, c'est un contexte particulier parce qu'on a affaire quand même à des malades, des gens qui souffrent de tuberculose ou d'autres, mais le soleil devient une thérapeutique et toute l'émergence des sanatoriums est liée au tourisme parce que à côté de Thomas Mann et de ses malades, vous avez des familles qui se réunissent. Et donc, une infrastructure hôtelière qui va se mettre en place pour accueillir les familles qui vont visiter les proches qui sont malades. Donc, ça a des incidences économiques qui sont tout à fait considérables.
Un dernier mot, peut-être, de retour vers l'actualité avec vous, Philippe Violier. Est-ce que, selon vous, l'accalmie forcée des derniers mois aura permis de repenser un tourisme plus durable, moins prédateur? On parlait tout à l'heure des critiques associées au tourisme de masse, des critiques souvent environnementales. Ou est-ce qu'au contraire, on peut craindre que cette critique du tourisme de masse nous fasse revenir à un tourisme plus élitisme, qui rappellerait le tourisme aristocratique de la fin du XVIIIe siècle?
Oui, écoutez, enfin, je ne crois pas qu'on puisse revenir en arrière sur le tourisme de masse, sur l'accès du tourisme, enfin, sur l'accès du plus grand nombre au tourisme, parce que le tourisme est devenu une composante essentielle de la société. Je ne vois pas comment on arriverait comme ça à imposer à une partie importante de la société de ne plus être touristique. Bon, maintenant, en ce qui concerne, je dirais, la prise en compte de la question environnementale dans le tourisme, elle est déjà largement avancée. Hein, il y a en particulier en France, notamment parce que les professionnels des pays industriels savent très bien que les individus sont plus sensibles à cette question et qu'ils ont des pratiques, je dirais, dans leur vie quotidienne urbaine. Par exemple, rouler à vélo, enfin trier ses déchets, etc. Et que personne ne comprendrait que dans son lieu de vacances, il n'y ait pas les mêmes comportements, les mêmes attentions.
Et donc la transition énergétique du secteur est déjà bien entamée, c'est ce que vous nous dites, Philippe Violier. Un grand merci à tous les deux, Philippe Violier, Laurent Tissot, d'avoir été avec nous depuis chez vous tout au long de cette émission. C'était Entendez-vous l'écho, une émission préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Paloma Soria-Brown, Léa Sabou Bourin et Thibaut Affringue, à la réalisation Véronique Villa, à la technique aujourd'hui Alex Dang. Hey. Parks. Demain, allons-nous assister à la fin des grands voyages? On posera la question aux géographes Laurent Carouet et Jean-Baptiste Frétini. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast, et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.